Radio de la Paix, il est 7h. Le journal de 7h. Sonia Nzian.
Bonjour à toutes et à tous à la une de ce journal. Trois accords de coopération signés entre la Côte d'Ivoire et la République de Corée. Déclaration hier à la presse du président Alassane Ouattara qui a regagné Abidjan. Et après un séjour en France, puis en Corée où il a pris part au premier sommet Corée du Sud-Afrique. Vote de la modification du code pénal ivoirien. Le président de la FIDOP, Boga Sako, estime que le nouvel article 185 restreint la liberté d'expression et la liberté d'opinion du citoyen. Vous l'entendrez développer son point de vue en début de journal. Sur le même thème, vous retrouverez dans l'invité de la rédaction, Abdoulaye Ben Meïté, député RHDP. Il se prononcera sur cette modification du code pénal ivoirien et la position de ses collègues de l'opposition sur le sujet. Là-dessus, en fin d'édition, Abdoulaye Ben Meïté s'entretiendra avec Jean-Claude Comé. Hors de nos frontières en France, le président Emmanuel Macron annonce la dissolution de l'Assemblée nationale à l'issue des élections européennes remportées par l'extrême droite française. Et puis de retour en Côte d'Ivoire, nous retrouverons Mel Emmanuel pour la revue des titres de la presse. Le président de la République Alassane Ouattara a regagné Abidjan hier dimanche 9 juin après un séjour en France puis en Corée où il a pris part au premier sommet Corée du Sud-Afrique. Dans la déclaration faite à la presse, le chef de l'État a évoqué ses entretiens avec son homologue coréen Yoon Suk-yeol et l'ancien secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon. Alassane Ouattara a également mentionné sa participation au premier sommet Corée-Afrique et au sommet des affaires Corée-Afrique ainsi que la signature de trois accords de coopération entre la Côte d'Ivoire et la République de Corée. Vote de la modification du code pénal ivoirien le jeudi 6 juin dernier à l'Assemblée nationale. Ce texte, soutenu par le RHDP, a suscité de vives inquiétudes au sein de l'opposition, notamment du PDCI-RDA et du PPACI. Donnant son avis sur ce texte, le président de la FIDOP, Boga Sako, estime que cette loi, votée en sa disposition 185 alinéa 2, pourrait restreindre certaines libertés fondamentales. Écoutons l'argumentaire du président de la FIDOP, Fondation ivoirienne pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie politique.
On n'a pas besoin forcément d'être juriste pour s'intéresser à la loi, parce que la loi s'impose à tous les citoyens. C'est pour cela que lorsque le Parlement vote une disposition nouvelle, il faut toujours en informer le peuple, car le juge dira demain que nul n'est censé ignorer la loi. Première observation. La deuxième, c'est que à chaud, la disposition qui a été votée atteint à la vérité, à un certain nombre de faits que la loi veut sanctionner. Notamment, ils ont parlé de l'apologie de la violence, l'apologie du terrorisme, l'apologie des casses. En clair, si un homme politique ou un citoyen appréciait, soutenait, félicitait des casses ou bien des destructions de biens d'autrui, etc., il est passible de certaines peines. Le danger qu'il y a là-dedans, en tant que militant des droits de l'homme, est-ce que cette disposition-là ne restreint pas la liberté d'expression et la liberté d'opinion du citoyen? Ce n'est pas normal, parce que l'Assemblée nationale est censée représenter le peuple. Or, le peuple a besoin de liberté. Le peuple a voté des dirigeants. Mais si ces dirigeants-là, ils ne se comportent pas comme il faut, le peuple a le droit, lui, propriétaire exclusif du pouvoir en démocratie, a le droit de critiquer le dirigeant.
Boga Sako, le président de la FIDOP, Fondation ivoirienne pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie politique. Après la réaction de la société civile, notamment de la FIDOP, sur le vote de l'article 185 nouveau du Code pénal ivoirien par l'Assemblée nationale, retrouvons celle du juriste et analyste politique Geoffroy Julien Kouao. Il pense que les députés PPACI et PDCI-RDA disposent encore de recours contre cette loi avant d'être promulguée.
La majorité a tranché. C'est ainsi que fonctionne la démocratie. Mais dans tous les cas de figure, rien n'a encore fait. Parce que tout ce qui concerne, par exemple, la liberté publique, peut être déféré devant le Conseil constitutionnel. Donc, les députés, même les associations des droits de l'homme, peuvent, avant sa promulgation, déférer cette loi devant le Conseil constitutionnel qui, en dernier ressort, va se prononcer. Dans tous les cas de figure, tout ceci montre bien que nous sommes dans une dynamique démocratique et c'est une très bonne chose.
Alors, la démocratie, comme le disait un professeur de droit, c'est la dictature de la majorité, vous êtes d'accord?
Oui, c'est la dictature de la majorité dans le respect des droits de la minorité. Dans tous les cas, la loi s'applique à tout le monde. Aujourd'hui, ceux qui ont voté cette loi peuvent être demain dans l'opposition et on verra. Dans tous les cas de figure, lorsqu'on vote une loi, on doit penser plus à l'intérêt général qu'à l'intérêt égoïste. Parce que la démocratie, par essence, est libérale. Elle repose sur la liberté. Et dans une démocratie, l'un des critères de la vitalité démocratique, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté de penser, c'est la liberté de conscience, c'est la liberté de réunion, la liberté d'action, la liberté d'aller, la liberté de venir. Et toute mesure allant dans le sens de restriction de cette liberté écorne dangereusement la démocratie.
Le juriste et analyste politique Geoffroy Julien Kouao, joint par Francis Cassis. Et puis la Côte d'Ivoire annonce son adhésion au principe du Parlement ouvert. C'est un mécanisme à travers lequel le Parlement ivoirien s'engage à promouvoir l'ouverture, à renforcer les processus parlementaires et le travail des législateurs en collaboration avec la société civile. Le lancement de ce principe a eu lieu les 7 et 6 juin dernier à Grand Bassam à l'occasion d'un atelier parlementaire. On en sait plus avec Junior Cardin.
Cet atelier marque la première action du Parlement ouvert en Côte d'Ivoire, selon le directeur pays d'Expertise France, Alexandre Fulon, opérateur sur l'activité.
Il est une suite concrète du sommet Afrique et Moyen-Orient du partenariat pour un gouvernement ouvert qui s'est tenu du 1er au 3 novembre 2022 au Maroc, durant laquelle la Côte d'Ivoire, à travers son président de l'Assemblée nationale, s'est engagée à développer des initiatives pour favoriser la transparence parlementaire au niveau national à travers la promotion du Parlement ouvert.
Au nom du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, la vice-présidente Sylvie Yao a dit être convaincue que la mise en place du Parlement ouvert conduira le Parlement ivoirien vers une opportunité de partage d'expériences et de bonnes pratiques pour promouvoir des usages et des protocoles parlementaires plus inclusifs.
Le Parlement est une institution qui place le peuple au cœur de sa fonction de représentativité. Son ouverture, selon le sens des thèmes présentés par le PGO, ne fera que renforcer la visibilité et la redevabilité de notre institution.
Pour sa part, le coordonnateur mondial du Parti pour un gouvernement ouvert, PGO, a lancé un appel aux autorités ivoiriennes. Alonso Cerdan.
Dans un contexte mondial où la démocratie est attaquée, les lueurs d'espoir qui montrent comment la démocratie peut être efficace deviennent de plus en plus importantes. Continuer à nourrir ces quatre engagements aux quatre chantiers du modèle du gouvernement ouvert ivoirien pour apporter des résultats aux citoyens et montrer comment le gouvernement ouvert peut être approprié à sa manière par chaque pays du monde.
Les parlementaires ivoiriens disent compter sur les expériences de l'Assemblée nationale française et de la Chambre des représentants du Maroc au fin de la construction d'un plan d'action pour un Parlement ouvert.
Direction Yamoussoukro, où trois projets de loi ont été adoptés le samedi 8 juin par la Commission de la Recherche, de la Science, de la Technologie et de l'Environnement du Sénat. Il s'agit notamment du projet de loi portant gestion de la faune, de celui portant protection de l'éléphant en Côte d'Ivoire et du dernier relatif au commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d'extinction. Ces projets de loi ont été présentés par le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, qui, au terme des travaux, se dit satisfait.
Aujourd'hui, c'est un grand jour pour le ministère des Eaux et Forêts parce que nous venons de faire passer trois lois importantes pour le travail que nous devons faire sur le terrain. Car après le diagnostic, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des insuffisances dans le secteur de la faune et pour pouvoir le faire, il fallait avoir des instruments juridiques et institutionnels sur lesquels on peut s'adosser pour travailler. La Côte d'Ivoire a interdit depuis 1974 la chasse. Mais on s'est rendu compte que de 1974 à aujourd'hui, tout le monde fait la chasse comme des braconniers parce que la chasse étant interdite, tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est du braconnage. Donc il fallait pouvoir organiser la chasse au travers d'une loi et c'est ce qui vient d'être fait. Et lorsque la loi sera promulguée, la Côte d'Ivoire aura pris des dispositions pour organiser la chasse et il y aura des périodes où la chasse sera ouverte et des animaux que nous devons chasser seront indiqués. Et une fois que la période de chasse sera terminée, la chasse sera fermée pour permettre aux animaux de se reproduire. Donc aujourd'hui, la chasse reste interdite jusqu'à la promulgation de la loi qu'on vient d'adopter. L'État, au travers de cette loi, va prévoir des moyens pour pouvoir dédommager les populations qui ont subi des dommages dans le cadre du conflit hommes et éléphants.
Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, au micro d'Emile Yao. Le gouvernement ivoirien déterminé à lutter contre le tabagisme et à protéger sa jeunesse. Des initiatives de sensibilisation en vue via la mise en œuvre de politiques anti-tabac. Affirmation du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Pierre Demba a saisi l'occasion de la célébration de la journée mondiale sans tabac le vendredi 7 juin à Abidjan-Cocody pour entre autres se prononcer sur les avancées de la lutte contre le tabagisme en Côte d'Ivoire.
La récente étude menée en 2023 par le ministère de la Santé en collaboration avec le ministère de l'Éducation, l'OMS et CDC Atlanta auprès des jeunes en milieu scolaire chez les 13 à 15 ans révèle que la prévalence du tabagisme est passée de 14% à 5%. Ça veut dire que les actions que nous menons ont un impact sur ce fléau et nous devons poursuivre. Selon les mêmes enquêtes, le décret d'interdiction de fumer dans les lieux publics et les transports en commun est respecté. Mais nous allons l'accentuer. Je pense que les mairies doivent nous aider à rendre plus visibles ces interdictions. Ainsi, le taux d'exposition à la fumée secondaire est passé de 14% à 47%. Notre pays fait d'énormes progrès. Cependant, la lutte n'est pas encore gagnée. Il ne saurait être question donc de faire une pause, car notre objectif est de poursuivre nos actions jusqu'à contrôler l'épidémie du tabac. Pour atteindre cet objectif, nous mettons en place des stratégies, des ruses propices à l'adoption de nouveaux produits par les nouvelles générations. Ces nouveaux produits sont donc entre autres le chicha, le tabac à chauffer, l'inhalateur électronique, les cigarettes électroniques, les cigarettes ayant donc des formes de bonbons, des rouges à lèvres. Ces produits sont présentés par l'industrie du tabac comme doux à la consommation, conçus avec plusieurs milliers d'arômes, avec des emballages attrayants. Ils sont présentés comme des moins nocifs et utilisent des tactiques publicitaires à travers des réseaux sociaux qui attirent la population et en particulier les jeunes, les enfants et les adolescents. D'où le choix du thème de cette année, la protection des enfants contre l'ingérence de l'industrie du tabac.
Pierre Demba, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Profitant de la cérémonie de commémoration de la Journée mondiale sans tabac à Abidjan-Cocody, le concours Plume anti-tabac a primé les meilleurs journalistes engagés dans cette lutte. Initié par le réseau des communicateurs engagés dans la lutte anti-tabac, le vainqueur du concours est Faustin Ehouman. Journaliste à Fraternité Matin, il a remporté le super prix et le premier prix dans la catégorie presse écrite pour son article sur les conséquences du tabac.
Ce prix que j'ai reçu est pour moi un appel à ne pas baisser les bras, à continuer à travailler parce que les défis de la lutte sont encore là et ils sont encore plus forts. Parce que au même moment où les dispositifs de lutte se mettent en place, dans le même temps, ceux qui polluent, ceux qui détruisent la vie des jeunes continuent eux aussi d'envisager, de réfléchir, de trouver les voies et moyens pour continuer à engranger leur richesse. Et donc, en tant que journaliste, je me tourne vers tous mes confrères. Je pense que nous devons être engagés. On est bien parti pour le faire, pour assurer cette mission d'éveil des consciences et de quatrième pouvoir qu'on doit gérer. Merci au réseau. Nous sommes dans une étape de notre pays, au monde, où ce défi de la lutte anti-tabac a atteint des proportions très élevées. Si on veut perpétuer la vie des jeunes, d'abord nous, les jeunes générations à venir, il faut s'engager sans faille dans la lutte contre la prolifération des produits du tabac et la prolifération des drogues. Merci beaucoup au programme national de la lutte contre le tabagisme pour l'initiative et au réseau. Les journalistes, vous nous offrez en tant que journalistes de nous exprimer. Nous sommes conscients de notre rôle dans la société. Ce genre d'initiatives viennent nous encourager à continuer ce que nous faisons.
Faustin Ehouman de Fraternité Matin, journaliste bien sûr à Fraternité Matin, lauréat du Super Prix et du Premier Prix dans la catégorie presse écrite du concours Plume anti-tabac. Actualité hors de nos frontières, le président français Emmanuel Macron a annoncé dimanche soir la dissolution de l'Assemblée nationale et l'organisation de nouvelles élections législatives. Ceci après la victoire aux européennes de l'extrême droite française, loin devant le camp de la majorité présidentielle. Pour Moussa Diao, professeur émérite en sciences politiques au Sénégal, cette dissolution de l'Assemblée en France changera les rapports avec l'Afrique. Dans dans le sens où il y aura entre autres beaucoup plus de respect des États africains et moins d'ingérence dans les politiques africaines. Retour en Côte d'Ivoire avec la revue des titres de la presse proposée par Mel Emmanuel. Bonjour.
Bonjour Sonia, bonjour à toutes et à tous. Depuis la fin de la semaine dernière, il y a un sujet qui fait et continue de faire couler encre et salive, c'est l'adoption de l'article 185 nouveau du Code pénal ivoirien. Ce matin, c'est le quotidien Le Temps qui donne le ton, écrivant « Loi contre la liberté d'expression, le nouveau visage répressif du RHDP ». Lui emboîtant le pas, Génération Nouvelle parle de mauvaise inspiration du camp Ouattara. En réaction à ce point de vue, l'Avenir affirme que l'opposition sombre dans la manipulation et l'intox et propose l'intégralité des modifications apportées à la loi de 2019. Dans la même veine, rapportant les propos du garde des Sceaux, ministre de la Justice, Sanson Kambilé, l'intelligent d'Abidjan le cite en ces termes « Il ne faut pas confondre l'apologie d'un crime et la contestation d'une décision de justice ». Fin de citation. Un autre sujet au menu de cette revue des titres de la presse ivoirienne ce lundi, c'est un autre pan des débats pouvoir-opposition, notamment le processus électoral. À 15 mois de la présidentielle de 2025, les inquiétudes d'une coalition de partis politiques et de la société civile, tel est le titre qu'affiche Génération Nouvelle. Ce sont 14 organisations de partis politiques et de la société civile qui tirent la sonnette d'alarme, selon Soir Info. Et de son côté, le sursaut nous apprend que cette coalition, conduite par Simone Gbagbo, critique sévèrement les méthodes de la commission électorale indépendante, CEI. L'avis des partis politiques intéresse également les journaux de ce jour, notamment celle du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Yopougon, présidentiel 2025. Big Togo scelle l'union pour la victoire de Ouattara, placarde l'essor ivoirien. Alors que des tensions semblaient se profiler à l'horizon au sein du parti, notre voix écrit que par cet acte, Big Togo tente de recoller les morceaux. RHDP Yopougon, la paix est revenue depuis hier, renchérit le jour plus. En revanche, pour le quotidien d'Abidjan, l'affaire Big Togo fait bizarre. Sera-t-il forcé d'emprunter le même tunnel funeste que Soro ? S'interroge le tabloïd. Enfin, dans cette revue des titres de la presse ivoirienne ce lundi 10 juin, les épreuves orales du bac artistique débutent aujourd'hui et demain, informe la Nouvelle Alliance. Merci pour votre attention, à vos journaux et bonne lecture à toutes et à tous.
Merci Mel Emmanuel, on vous retrouve dans l'édition de 8h. Nous en arrivons à l'invité de la rédaction, aujourd'hui installé dans le fauteuil, Abdoulaye Ben Neïté, député RHDP. Il se prononce sur la modification du code pénal ivoirien en son nouvel article 185 et la position affichée par ses collègues de l'opposition sur le sujet. En effet, les groupes parlementaires PPACI et PDCI-RDA sont contre certaines dispositions de cette loi qui, pour eux, sont contraires à la liberté d'expression et au droit de manifester. Sur la question, Abdoulaye Ben Meïté s'entretient avec Jean-Claude Comé.
Abdoulaye Ben Meïté, bonjour.
Bonjour.
Il y a une modification du code pénal à son article 185 qui a cristallisé les positions, notamment du groupe parlementaire de l'opposition PPACI et PDCI. Que dit en substance cette loi et à quel niveau se trouvent les modifications?
D'accord, je vous remercie. Il faut savoir c'est qu'à la faveur de cette modification de certaines dispositions de la loi pénale, quant à sa mise en conformité avec les peines complémentaires, notamment la confiscation, l'exécutif a saisi l'opportunité pour procéder à un toilettage au niveau de cette décision où il y avait des mots à répétition. Donc c'est précisément le cas de l'article 185 qui, faut-il le rappeler, existe depuis 1981 et qui a résisté aux modifications de 2019. Donc en substance, ce sont les mêmes dispositions. Quand vous lisez l'article 185, il y a seulement une petite modification au niveau de l'alinéa premier. L'alinéa premier était indiqué antérieurement comme suit. Faire l'apologie des crimes de meurtre, de pillage, d'incendie ou de destruction d'édifices, de vol, des crimes contre le droit des gens et des infractions prévues aux articles 2 et 3 du présent chapitre. Le nouveau alinéa 1 dit faire la destruction d'édifices, de vol, des infractions contre le droit des gens et des infractions prévues au chapitre 2 et 3 du présent titre. Donc, en réalité, il y avait une répétition au niveau des crimes de meurtre, parce que le meurtre déjà était un crime. Et quand on va plus loin, on dit des infractions contre le droit des gens.
Or, il était indiqué des crimes contre le droit des gens et des infractions prévues au chapitre 2. Donc, en réalité, c'est un toilettage. Maintenant, j'entends dans la presse qu'on parle de l'alinéa 2e. En réalité, le président de la République n'a fait aucune modification de l'article 185.
C'est vrai, vous l'avez souligné, que l'article 185 existe depuis 1981. Mais peut-être à la réélecture, le groupe de l'opposition, en tout cas à l'Assemblée, se rend compte que l'article 185 alinéa 2 pourrait porter à atteinte au droit d'expression, à la liberté d'association et bien d'autres. Et c'est ce qui a été relevé dans les débats.
Je suis inquiet. C'est à croire que les députés attendent l'exécutif pour comprendre les textes. Et cela est vraiment regrettable. Parce qu'en réalité, ce texte existe. Je pense que si l'opposition était intervenue dans le sens effectivement d'une proposition de loi modificative, je pourrais comprendre. Mais l'exécutif vient pour essayer de mettre en forme sa propre loi. Et vous sautez sur l'opportunité de faire une proposition d'une disposition nouvelle, dans le sens d'un alinéa. Mais l'exécutif n'est pas ça sa volonté. Au surplus, qu'est-ce qui empêchait l'opposition, si tant est qu'elle estimait que cette disposition n'était pas adaptée à la liberté d'expression, qu'est-ce qui empêchait cette opposition de procéder à une proposition de loi modificative?
Mais c'est ce qui a été fait visiblement à la plénière.
Non, ce n'était pas ça. Les travaux de commission ont porté sur la modification qui a été apportée à l'alinéa premier par rapport à la mise en conformité. Ça a été adopté à l'unanimité des députés. Et nous sommes allés à la plénière. Et à la plénière, ce qui se passait, c'est qu'ils ont demandé l'ajout d'un autre alinéa. Et l'alinéa qu'ils ont proposé était en substance lié à émettre des restrictions quant à cette disposition de l'alinéa deuxième. À savoir qu'il fallait faire échapper les hommes politiques. Autrement dit, ce que l'opposition demande, c'est lorsque une personne est condamnée pour un chef d'infraction qui est prévu par le texte et que cette personne, après sa condamnation définitive, l'opposition veut qu'on lui permette de lancer un appel au public en solidarité avec le condamné dans le sens de désobéir à l'autorité.
Alors, mais l'opposition rétorque que, justement, le citoyen a un droit à l'expression, à manifestation. Donc, mettre dans une loi, surtout cette disposition, cela enfreint à sa liberté.
Mais je pense que c'est le PDCI qui s'en est fait l'écho. Mais je vais rappeler qu'en 1981, c'est bien le PDCI qui était au pouvoir. Et je vous indiquais tout à l'heure que c'est une disposition qui existe depuis 1981.
Mais on était en situation de monopartie.
Très bien. Si tant est que c'est une disposition qui était regrettable, je pense que de 2001 jusqu'en 2010, c'est bien le PPACI qui était au pouvoir. Et cette disposition existait encore. Donc aujourd'hui, on ne peut pas faire un jugement, reproche au président de la République de vouloir effectivement fossoyer la liberté. Ce qui leur est demandé, c'est mon point de vue. S'ils estiment que cette disposition qui était adéquate hier ne l'est pas aujourd'hui parce qu'ils sont dans l'opposition, qu'ils aient le courage d'user de leur pouvoir parlementaire d'en proposer effectivement une relecture dans les termes du règlement de l'Assemblée nationale à la faveur d'une proposition de loi modificative et le peuple se prononcera.
Alors, vous êtes député donc RHDP. Pourquoi avez-vous voté cette loi?
Cette disposition ne viole en rien la loi fondamentale, les conventions internationales, parce que pour la simple et bonne raison que les conditions de répression sont bien définies. Il s'agit de conditions cumulatives. La première condition, il faut d'abord donc faire la politique de crime et consorts, des pillages, des sentiers et tout ça. Mais au-delà, il faut que vous lancez un appel au public dans le dessein, donc avec l'objectif de désapprouver l'autorité en solidarité avec un condamné au moins dans le cadre d'une infraction spécifique. Donc pour moi, il n'y a rien de nouveau.
Alors, mais donner son opinion en public sur un sujet donc d'ordre judiciaire, est-ce que c'est cette compréhension que nous devons avoir?
Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas la vie qui est incriminée. Les hommes politiques s'expriment librement. Mais il ne faudrait pas que ce soit effectivement un appel à désobéissance.
Honorable Aboulaye Meïté, je vous remercie.
C'est moi.
Aujourd'hui, invité de la rédaction, Abdoulaye Ben Meïté, député RHDP, était avec Jean-Claude Comé. C'est ce qui m'a fait en 7 heures, dont voici le rappel des titres. Trois accords de coopération signés entre la Côte d'Ivoire et la République de Corée. Déclaration à la presse du président Alassane Ouattara, qui a regagné Abidjan hier dimanche 9 juin, après un séjour en France puis en Corée, où il a pris part au premier sommet Corée du Sud-Afrique. Et puis, vote de la modification du code pénal ivoirien. Le président de la FIDOP, Boga Sako, estime que le nouvel article 185 restreint la liberté d'expression et la liberté d'opinion du citoyen. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous, 8h.
Radio de la paix, l'info juste et sans passion.